Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Les syndicats ont quitté prématurément la réunion avec le gouvernement en signe de protestation contre les mesures d'austérité prévues par le cabinet. La chancelière allemande Angela Merkel effectuera une visite à Prague le 3 avril prochain. Les Pragois ont célébré ce vendredi la journée mondiale de l'eau placée sous l'égide de l'UNICEF. Comme il l'avait annoncé, les représentants des syndicats ont prématurément quitté vendredi matin la réunion du gouvernement en signe de protestation contre la politique menée par celui-ci. Les représentants des trois partis de la coalition gouvernementale, des syndicats et des employeurs se sont réunis pour débattre des mesures d'économie envisagées par le gouvernement pour 2013 et 2014, ainsi que des réformes en cours de préparation. Les mesures d'austérité qui doivent permettre de réduire le déficit du budget de l'État ne sont pas encore définies. Adopté. Et néanmoins, un accord semble avoir été trouvé au sein de la coalition sur l'augmentation d'un point à 15 et 21% des deux taux de TVA appliqués sur les biens et services, ainsi que sur la limitation de la croissance du montant des pensions de retraite. Les syndicats qui réclament l'arrêt du processus d'adoption des réformes ou la démission du gouvernement ont appelé à une manifestation qui se tiendra à Prague le 21 avril prochain. Les représentants des syndicats des transports ont également annoncé ce vendredi qu'ils entendaient protester contre la politique de rigueur du gouvernement en organisant une protestation plus importante que celle de juin dernier où une grève de 24 heures avait paralysé les transports dans tout le pays. La chancelière allemande Angela Merkel effectuera le 3 avril prochain une visite à Prague et sera reçue par le président Václav Klaus et rencontrera également le premier ministre Petr Nečas. La situation économique de l'Europe ainsi que les questions nucléaires devraient être au cœur de ces rencontres. À la différence de l'Allemagne, la République tchèque entend renforcer l'importance de l'industrie nucléaire, notamment en achevant la construction de la centrale de Temelín. Le ministre de l'Éducation, Josef Dobesch, a officiellement remis sa démission ce vendredi au premier ministre Petr Nečas. Josef Dobesch a décidé de démissionner en début de semaine suite à la décision prise par le gouvernement de réduire cette année de 2,5 milliards de couronnes, environ 100 millions d'euros, le montant des dépenses consacrées à l'éducation. Selon le ministre, cette décision entraînera une réduction des salaires des enseignants. Lundi prochain se réunira l'organisation pragoise du Parti civique démocrate ODS, principale formation de droite et membre de la coalition gouvernementale, afin de discuter de l'affaire des écoutes téléphoniques mettant en cause l'ancien maire ODS de Prague, Pavel Bém. À l'issue de la réunion, le chef de cette organisation et actuel maire de Prague, Bohuslav Svoboda, qui se refuse pour l'instant à tout commentaire sur l'affaire, devrait se prononcer à ce sujet. Selon le quotidien Mladá Fronta Dnes, l'agence ABL aurait obtenu les enregistrements d'entretiens téléphoniques datant de 2007 entre Pavel Bém, le lobbyiste Roman Janoušek et Petr Djurica, chargé des activités commerciales de la municipalité de Prague. Ces documents qui démontrent l'influence des lobbyistes sur la gestion financière de la capitale risquent de compromettre l'ancien maire de Prague. 375 personnes ont formé une file d'attente aux toilettes vendredi matin dans le centre de Prague sur la place de la République dans le cadre de la journée mondiale de l'eau placée sous l'égide de l'UNICEF. L'année dernière, les participants étaient nettement moins nombreux. L'objectif de la manifestation organisée pour la troisième fois à Prague est de sensibiliser le public au problème de l'eau, dont l'importance de l'assainissement et de l'éducation à l'hygiène et de recueillir des fonds pour acheter des pompes, des puits et des latrines supplémentaires pour les enfants des pays les plus déshérités. Côté météo, samedi, jour de la fête des Gabriels, le soleil devrait briller sur l'ensemble du territoire. Quelques averses seront tout de même possibles dans le sud du pays dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 15 et 19 degrés pour dimanche. La météo annonce un peu plus de nuages. Les températures maximales resteront élevées pour la saison et varieront autour de 19 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková à la suite du programme avec Guillaume Narquet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à notre chère Madeleine et Magdalena, ou si vous préférez, vous l'aurez compris, pour ce bulletin d'information. Et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité, tout d'abord le projet de rebaptiser l'aéroport de Prague, aéroport Václav Havel, un projet qui a été approuvé cette semaine par le gouvernement. Plus de détails dans quelques instants. Il sera ensuite question de francophonie et d'enseignement du français en République tchèque avec une professeure d'Ostrava. Et puis, comme tous les 15 jours, le vendredi sur Radio Prague, la seconde partie du programme sera réservée à l'économie. Aujourd'hui, nous évoquerons la vente de vin et de champagne français en République tchèque. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, l'aéroport de Prague-Ruzyně, principal aéroport en République tchèque, sera bien rebaptisé aéroport Václav Havel. Présenté en décembre dernier, quelques jours seulement après la mort de l'ancien président tchèque, le projet a été approuvé par le gouvernement mercredi. Le changement de nom devrait intervenir officiellement le 5 octobre prochain, jour du 76e anniversaire de Václav Havel. C'est le réalisateur Fero Fenice qui est à l'origine de ce projet visant à rebaptiser l'aéroport de la capitale tchèque. Très vite après la mort de Václav Havel, le 18 décembre dernier, sa pétition dans laquelle il expliquait vouloir rendre hommage à l'ancien président, comme les Américains ou les Français l'ont fait avec JFK et Charles de Gaulle, a été signée par plus de 80 000 personnes. Et 3 mois à peine plus tard, le gouvernement s'est donc déjà prononcé favorablement, comme s'en félicite Fero Fenice.
C'est pour moi une très bonne nouvelle. C'est la preuve qu'une initiative civique peut aboutir. S'il existe une réelle volonté et qu'un dur travail est réalisé, alors un résultat positif concret est possible. Cela me fait vraiment très plaisir parce que pour moi, c'est une première expérience. C'est la première fois que je parviens à travers une initiative civique à convaincre les représentants de l'État de faire quelque chose.
Toutefois, si le soutien a été important, le projet n'avait pas que des partisans. Les opposants ont même été relativement nombreux, ce que regrette Fero Fenice.
La plupart de ces objections étaient très irrationnelles. Beaucoup des opposants avaient projeté et projettent même encore dans Václav Havel leurs déceptions personnelles, leurs échecs nés des restitutions et d'autres encore comme leur mécontentement du mauvais fonctionnement de l'ordre juridique dans ce pays, comme si Václav Havel avait été un roi qui aurait pu s'occuper de tout. Tout le monde a oublié que dans ce pays, le pouvoir exécutif est dans les mains du gouvernement et qu'un autre Václav Klaus a été le premier ministre qui est resté le plus longtemps en exercice. Václav Havel avait essentiellement une autorité morale, surtout les 2 premières années après la Révolution. Mais après la partition de la Tchécoslovaquie en 1993, c'est le gouvernement qui a décidé de tout. C'est donc une erreur de juger Václav Havel de la sorte. La deuxième chose évidente est que les réactions négatives que j'ai reçues peuvent être divisées en 2 catégories. Jusqu'à l'âge de 35 ans, je n'ai reçu que quelques rares critiques, mais à partir de 35 ans, plus l'âge avançait, plus les réactions négatives étaient nombreuses et agressives. Je pense donc pouvoir affirmer que c'est une affaire qui touche surtout les générations plus anciennes, qui en sont encore à comparer l'époque actuelle avec l'ancien régime. Ces gens idéalisent certaines choses et ça se voit dans les résultats des élections.
En attendant donc d'être rebaptisé du nom de Václav Havel, l'aéroport de Prague porte toujours le nom de la commune de Ruzyně qui évoque aujourd'hui encore pour un certain nombre de Tchèques de plus de 30 ans le nom de l'une des prisons dans lesquelles Václav Havel justement et beaucoup d'autres ont été enfermés sous le communisme. Eva Berankova est enseignante à la chaire des langues romanes de la faculté des lettres à Prague. Elle est également membre de l'association Gallica qui récompense chaque année les meilleures thèses de doctorat en français. Magdalena Rosinkova a rencontré Eva Berankova à l'occasion de la remise des prix du concours de la francophonie aux élèves et étudiants tchèques qui a eu lieu cette semaine au ministère des Affaires étrangères à Prague. C'était aussi l'occasion pour poser à Eva Berankova quelques questions sur l'association Gallica, sur l'enseignement du français en République tchèque et sur la francophonie en général. Eva Berankova répond aux questions de Magdalena Rosinkova.
L'association Gallica, c'est une association qui regroupe tous les enseignants de la langue et de la littérature française dans le cadre des universités tchèques, moraves et silésiennes.
Quelle est sa mission ?
Alors, sa mission est de bien sûr promouvoir l'enseignement du français, de la langue, de la littérature, d'organiser des colloques et des conférences, d'organiser ce qu'on appelle des écoles doctorantes. Tous les deux ans, Gallica décerne un prix pour soit la meilleure thèse, soit le meilleur mémoire de maîtrise consacré à une thématique française ou francophone. Ensuite, on peut dire que Gallica sert en quelque sorte d'élément de liaison entre les profs de français tchèques et leurs homologues d'autres pays européens.
L'association Gallica vient de recevoir un prix de l'Académie française. Qu'est-ce que c'est exactement comme récompense ?
C'est un prix qui est décerné aux organisations qui jouent un rôle important dans la promotion du français à l'étranger. Et Gallica a été récompensée comme un organisme important en Europe centrale dans le cadre de la propagation de la langue et de la culture française.
Pourquoi, d'après vous, les Tchèques, les jeunes Tchèques apprennent le français ? Pourquoi choisissent-ils le français pour leurs études supérieures aussi ?
Je pense que les motivations sont assez diverses. Bien sûr, la plupart du temps, c'est une affaire de cœur, c'est une tradition familiale, mais c'est parfois aussi un projet tout à fait concret, la volonté de travailler dans une entreprise française concrète. C'est aussi, si vous voulez, l'admiration pour un certain style de vie, un art de vivre français. C'est aussi l'amour de... on pourrait dire de cette vision française des choses, de la francophonie, des valeurs qu'elle représente. Et bien sûr, j'oublie, je ne devrais pas oublier ça, parfois c'est aussi l'affaire d'un très bon prof au niveau de l'enseignement secondaire. Nous avons toujours les mêmes lycées desquels viennent les candidats, donc on peut supposer toute une tradition locale en faveur du français.
Est-ce que d'après... votre expérience, le nombre d'étudiants tchèques du français a plutôt tendance à augmenter ou à baisser ?
Je pense que les dernières années, ce n'est ni l'un ni l'autre, heureusement, parce que certaines autres langues, telles que l'allemand par exemple, ont une tendance très fâcheuse à baisser considérablement. Pour le français, pour l'instant, on n'a pas de chiffres alarmants, donc il n'y a pas de baisse, même si on ressent quand même ces dernières années une certaine concurrence de la part de l'espagnol.
Dernière question, que représente pour vous la francophonie ?
Eh bien, pour moi, beaucoup, parce que j'ai vécu pendant 5 ans en France, pendant une année au Canada. Donc pour moi, c'est à la fois... une communauté linguistique, à la fois certaines valeurs dont on a déjà parlé plusieurs fois aujourd'hui. C'est un art de vivre, ce sont les amis que j'ai à travers le monde et c'est bien sûr ma carrière professionnelle.
Voilà, c'est donc avec Eva Berankova, enseignante à la chaire des langues romanes de la faculté des lettres à Prague, que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme tous les 15 jours, cette suite est consacrée à l'économie. Dans le quartier de Žižkov, un quartier de Prague, un jeune Français a ouvert il y a un peu plus de 2 ans un magasin Antoine Philippe qui propose vin et champagne français. Il s'appelle Antoine Verhageux et il importe donc ses produits français en République tchèque. Antoine Verhageux a répondu aux questions d'Anne-Claire Veluire. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission du 25 février 2011.
Économie, commerce.
Antoine Verhaeghe, on est aujourd'hui dans votre magasin, dans le quartier de Žižkov, dans la rue Jagellonska. Je suis entourée de cartons, de plans de France et des vignobles français et surtout de bouteilles de vin et de champagne. Alors j'imagine que vous vendez ici du vin.
Oui, alors j'ai ouvert un magasin au mois d'octobre 2010. Auparavant, j'importais le vin directement de France, que je stockais un peu chez moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu des clients en faisant des marchés français, en ayant une clientèle un peu particulière, comme ça. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit que c'était important d'avoir un point de vente sur Prague, assez bien placé. Bon, ici, on est entre, à la limite entre Vinohrady et Žižkov, juste sur le bord. Donc voilà, on a un quartier ici qui est assez... où il y a pas mal d'expatriés. Également, les Pragois qui habitent ici ne sont pas dans le centre, donc ils sont plutôt un peu à l'extérieur. Donc moi, ça m'avantage pas mal. Et j'ai une clientèle très intéressante pour le vin français. À la base, j'ai commencé avec le champagne. Donc on a travaillé avec 9 producteurs qui viennent tous de la montagne de Reims. J'ai une gamme assez complète. On a à peu près 90 champagnes différents. Et ensuite, on a des vins assez différents. Donc les vins de Bourgogne, on a les Châteauneuf-du-Pape, Côte-du-Rhône. On a aussi tous les vins d'Alsace. Et puis, depuis peu, on a une gamme aussi assez importante de Bordeaux. On a 24 Bordeaux. Donc que ce soit les vins moelleux ou bien les grands vins de Bordeaux ou les petits vins aussi. Qu'on a agrémenté tout ça de ventes un petit peu de spécialité. On a les saucissons, les terrines, on a les biscuits aussi un petit peu français qui viennent de Reims. Et puis j'ai ramené un peu également d'Armagnac et de Cognac pour les spécialistes.
D'accord, pour les amateurs, les Tchèques aiment bien les liqueurs comme ça, enfin les liqueurs françaises, Armagnac,
ouais,
Cognac.
Ce qui est très fort, ils aiment bien, et puis donc c'est intéressant.
Vous êtes ici, vous m'avez dit que vous avez ouvert le magasin depuis un an et demi à peu près. Est-ce que vous faites cette activité commerciale depuis plus longtemps, et pourquoi avoir choisi la République Tchèque?
C'est intéressant. En fait, j'ai fait un master en gestion et puis en logistique sur l'île. J'ai travaillé après un an chez Auchan, au service transport et logistique de chez Auchan. Et ensuite, je suis arrivé ici directement après. Et la raison, c'est je suis venu ici en vacances avec des amis Erasmus. C'était pour mon anniversaire, donc je voulais m'acheter une bouteille de champagne. En regardant les prix, je me suis dit, oh là là, on est à 800 km de Reims, mais il se passe quelque chose ici. Et puis, l'idée m'est venue de calculer, de voir un peu comment était le marché actuel à Prague, faire une étude de marché, ces choses-là. Et puis, mon créneau, c'est vraiment les petits vignerons, les petites productions. On fait, sur le champagne, des vignerons qui ont entre 4 et 50 000 bouteilles, sachant que la plupart ont 4 000 bouteilles. On a un vigneron qui en a 50 000. Pour le vin, c'est la même chose, c'est des petits vignerons. J'ai pas de grande maison, je travaille avec un négociant uniquement. Le reste, c'est que des petites maisons, et c'est peut-être ce qu'on n'a pas encore forcément sur Prague. Et le but, c'était vraiment de ramener des choses un peu locales en France à des tarifs aussi plus abordables. Parce qu'on a vu que le créneau de vente à peu près sur le Bordeaux, si on dépassait les 200 couronnes, 8 euros, ce qui en France est la même chose. Si on dépasse un vin à 8 euros en France, on a vraiment du mal à le vendre. Et je pense que sur Prague, c'est la même chose. Il faut arriver à des tarifs raisonnables.
Comment vous avez monté votre société? Vous l'avez montée en France, vous l'avez montée ici. C'est quand même peut-être pas très facile de faire des études de marché, de changer, de plaquer son emploi et de dire je vais monter quelque chose à Prague.
Oui. Alors la création de l'entreprise, ça s'est fait. Donc j'ai fait un tour de la République tchèque d'un mois environ. Donc j'ai fait toutes les villes. J'ai cherché tous les cavistes. J'ai regardé ce qu'ils avaient. Donc j'ai noté les tarifs, tout ça. Ensuite, j'ai cherché parce que moi, ne parlant pas tchèque à la base, j'ai voulu voir qui pouvait m'aider dans cette démarche. Donc je suis allé sur des spécialistes de création d'entreprise, des avocats, même des personnes, des connaissances. Et la meilleure solution, ça a été de passer par un avocat, donc qui a mis en place toute la société. Donc ça a été très bien fait. Ça prend environ un mois et demi. Donc là, c'est une société, donc c'est une SRO, l'équivalent d'une SARL française. Et ça a permis donc tout de suite de pouvoir travailler très rapidement. Ensuite, il y a des démarches de douane également à faire, qui sont un peu plus complexes si on parle pas tchèque. Il faut d'ailleurs quelqu'un qui parle tchèque au moins dans l'entreprise. Ensuite, il y a des démarches à la poste, ces choses-là qui étaient un peu compliquées pour moi parce que déjà en France, la poste, c'est pas facile pour tout le monde, mais là, c'est encore un peu plus compliqué. Quoi.
D'accord, c'est d'ailleurs la poste, c'est-à-dire toute la logistique pour faire venir vos produits?
Bah là, rien que l'exemple, pour la douane, j'ai besoin d'un certificat pour faire fonctionner tout ceci sur mon ordinateur. Et ce certificat, il fallait aller à la poste, donc expliquer à la femme qui est à la poste. Donc comment je fais pour obtenir le fameux certificat qui va me permettre de travailler? Je pense qu'il y a quelques freins quand même. C'est un peu des barrières, je pense. Quelques barrières, mais qui sont pas très nombreuses.
Ok. Alors, vous vous fournissez essentiellement auprès de petits récoltants. Vous les choisissez comment?
Alors, j'ai choisi après dégustation. Donc, tous les vins que je vends, je les ai goûtés avant. Ensuite, j'essaie d'adapter ça, enfin, de trouver le vin qui s'adapte vraiment au palais des Tchèques. Sur le champagne, je sais que le palais est assez sucré, puisqu'ils aiment bien le demi-sec et le bohémia sec et tout ça, c'est assez sucré. Donc on a essayé de trouver, tout en restant dans du brut, du champagne brut, en essayant de trouver des champagnes qui étaient un peu plus... qui correspondaient plus au palais tchèque. Pareil pour les vins, on a un vin de Loire, le Gamay, donc qui se rapproche Gamay 100%, un vin noir qui se rapproche très proche, qui est très proche du Beaujolais, que les Tchèques, le Beaujolais nouveau adorent. Et on a également tout ce qui est Côte du Rhône, Châteauneuf-du-Pape, avec ma chanson tchèque populaire. Le but, c'est d'essayer de viser aussi ce qui est connu. Moi, j'ai visé le Chablis, le Châteauneuf-du-Pape, parce que c'est apprécié par les Tchèques de Prague. Après, je sais pas si c'est de on n'est pas encore présent actuellement dans toute la... dans tout le pays. C'est un objectif.
C'est un objectif. Alors, vous parlez du champagne, que votre créneau, en tout cas au départ, c'est vraiment le champagne. Vous avez dit qu'une bouteille de vin au-delà de 8 euros, 200 couronnes, c'est cher et c'est difficilement abordable pour le client consommateur tchèque, ce qui est comparable avec la France aussi. Mais le champagne, ça paraît quand même un produit qui est assez cher, c'est un produit de luxe, il y a vraiment une grosse différence de prix avec l'équivalent tchèque qui est le Bohemian Sect et qui est quand même relativement beaucoup consommé.
Oui, alors sur le champagne, un exemple assez simple, en France on boit 180 millions de bouteilles, ici en République tchèque c'est 200 000. La différence se fait déjà dans le tarif, en France les prix sont entre 10 et 20 euros sur du champagne, en basique, ici on est déjà entre 30 à 40 minimum. Donc on en vend déjà moins parce que les prix sont plus élevés et je pense que plus on en vendra, plus les prix se tasseront un petit peu. Et donc je pense que la concurrence, ça permettra de faire baisser tout ça. Dans le magasin ici, je me suis aperçu quand même que je vendais pas mal de champagne parce qu'on a une spécialité là-dedans. Et que les gens voient bien que c'est quelque chose, c'est un produit spécial. Il y a une histoire derrière parce qu'on montre bien comment ça se passe, le déroulement de la production. Et le but aussi, c'est de travailler avec les producteurs pour les faire venir ici, pour qu'eux expliquent par eux-mêmes. Donc le but, c'est de bien expliquer que voilà, c'est quelque chose qui a été fait. C'est très long à produire et le champagne, ça met au moins 18 mois, voire 3 ans. Donc c'est pas un produit qui est fait en masse.
On voit bien, vous m'avez dit que votre page internet, votre site internet est exclusivement en tchèque, donc vous visez délibérément un public tchèque. Mais auprès de qui vous démarchez concrètement, plutôt les restaurants, les particuliers, et comment se faire connaître?
Alors au niveau de la démarche, moi quand je suis arrivé, le but c'était vraiment de démarcher les restaurants, les hôtels. Je me suis vite rendu compte que c'était assez compliqué parce qu'il fallait leur livrer un carton de temps en temps. Au niveau du paiement aussi, c'était assez difficile quand on démarre. Donc j'ai changé un peu de stratégie parce que c'était un système assez de réseau quand même ici. Et donc mon objectif, c'est de passer plutôt sur du particulier parce qu'on a un contact aussi qui est assez sympathique directement avec la personne qui va le boire finalement. Et donc on a une histoire à expliquer. Je pense que le contact passe bien quand on est étranger, qu'on est français, qu'on vend un produit français, c'est très sympa. Et je suis plutôt parti sur cette optique-là en ce moment, c'est-à-dire vraiment du contact direct. Je pense qu'on peut développer ça ici à Prague, et c'est sur quoi je suis parti. Mais je néglige pas non plus le grossiste, en fait, que je suis également, puisque j'importe. C'est un point important, mais il faut rien négliger, quoi. Il faut faire tout ce qui est possible.
On peut voir quand même à Prague de plus en plus de magasins, de petites boutiques de vin, de fromage, de produits comme ça, de délicatesses, comme on peut voir sur certaines vitrines. Est-ce que c'est une concurrence qui s'annonce difficile pour vous, ou est-ce que vous pensez que c'est mieux que on va dire, ce genre de produits se démocratise? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins pour vous?
Moi, je pense que généralement, c'est positif. C'est-à-dire que les Tchèques sont intéressés par ce qui est bon. Et donc de plus en plus. Pour moi, je suis assez spécialisé quand même sur... c'est 100% français ici. donc je suis vraiment spécialisé sur le produit français. Et donc vraiment, c'est l'image que je souhaite avoir. C'est vraiment Antoine Philippe, c'est du produit français. Et un produit assez spécial.
Voilà, c'est donc avec Antoine Verhageuve, vendeur français de vin et champagne français à Prague, que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et vous le savez, à très bientôt de nouveau l'écoute des émissions langue française de Radio Prague. Ahoy.